Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète : Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint.
Acclamons la parole de Dieu.
Louons à toi, Seigneur Jésus.
Si vous avez encore sous les yeux le texte de l'Évangile que nous venons de proclamer, on ne peut qu'être frappé de la façon dont il s'ouvre sur un appel à la conversion. D'abord, il dit clairement, c'est le premier verset de l'Évangile selon saint Marc, commencement de l'Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il appose les deux mots, Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est à la fois le Messie annoncé et puis le Fils de Dieu. Et d'emblée, saint Marc va ouvrir son évangile sur une citation du livre d'Isaïe qui parle du messager qui doit précéder la venue du Seigneur. Et évidemment, il identifie ce messager à Jean-Baptiste puisque, après la citation d'Isaïe, il écrit « Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. » Il proclamait un baptême de conversion. Voilà, le mot est lâché. Un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Et plus loin, il crie « Ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. » Donc voyez à quel point cette réalité de la conversion, cet appel à la conversion est présent dès les premiers versets de l'Évangile selon saint Marc. Le temps de l'Avent que nous vivons est aussi un temps de conversion. D'abord, les couleurs liturgiques sont violettes, qui dans l'Église est une couleur qui est appel à la conversion. On l'emploie au carême, on l'emploie aussi aux funérailles. Et le temps de l'Avent est aussi un temps de conversion. Non pas pour nous conduire à la passion du Seigneur comme au moment du carême, mais pour nous conduire à accueillir le Christ déjà présent qui ne cesse de venir. Et il faut convertir nos mentalités, nos esprits, nos cœurs. Convertir nos mentalités, vous avez vu que Pierre, dans la seconde lecture, l'exprimait aussi plusieurs fois en disant que vous ne devez pas vous comporter n'importe comment. Il dit, frère bien-aimé, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tâche ni défaut, sans tâche ni défaut, dans la paix. Et encore, il nous dit que le temps qui passe est une patience du Seigneur envers tous pour que nous puissions nous convertir, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Et donc il ajoute, voyez quels hommes vous devez être en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui l'attendez. Donc ce temps de l'Avent est un temps d'appel à la conversion, et nous devons, par introspection, regarder nos vies, et puis demander à l'Esprit-Saint la force pour changer tel ou tel aspect de notre vie qui n'est pas dans la ligne de l'Évangile. Non pas pour le faire à la force du poignet, ça c'est pas chrétien ça. Faire à la force du poignet en pensant qu'on a toutes les ressources nécessaires pour aboutir, c'est faux. Mais en nous tournant vers Dieu, en accueillant la force de l'Esprit-Saint et en lui disant « Esprit-Saint, j'ai besoin que tu me fortifies et que tu me guides sur ce chemin de conversion dans ma vie concernant tel ou tel point précis. » Alors nous vivrons un avant fructueux qui portera du fruit, et en ce sens-là, nous accueillerons plus profondément le Seigneur, évidemment. Car accueillir le Seigneur, ce n'est pas quelque chose d'éthéré, mais c'est vraiment concrètement par le changement de nos vies que nous pouvons lui donner plus de place en nous. Dans la seconde lecture encore, toujours tirée de cette seconde lettre de Pierre, nous voyons comment il est exprimé que, au fond, l'espérance du chrétien, l'attente du chrétien, c'est l'attente d'un monde nouveau, d'une création nouvelle. C'est les derniers versets de cette lecture. Nous attendons, selon la promesse du Seigneur, un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. Le Nouveau Testament ne considère pas que ce monde-ci est éternel. Ça, c'est nous-mêmes qui imaginons de telles choses, et puis ce sont certaines idéologies, comme le marxisme par exemple, qui a beaucoup fait progresser les esprits dans ce sens. Mais l'Écriture sainte ne considère pas que ce monde-ci est éternel. J'allais même dire que dans cette seconde lecture, Pierre exprime vraiment que tout se dissoudra dans un fracas épouvantable pour faire place à un monde nouveau qui doit venir. Donc nous ne devons pas nous préparer à rester ici éternellement, ni tout faire pour que ce monde-ci puisse vivre éternellement. Nous devons l'orienter dans le sens de l'Évangile par nos propres engagements, mais avec la conscience que tout cela est provisoire et que nous attendons quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur fera et qui est appelé ici la promesse. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard, écrit l'auteur de la seconde lettre de Pierre. Puisque tout cela est en voie de dissolution, eh bien, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour du Seigneur, nous attendons, selon la promesse du Seigneur, un ciel nouveau, une terre nouvelle. Nous pourrons relire personnellement, peut-être dans les jours qui viennent, ces passages de l'Écriture que la liturgie nous donne en ce deuxième dimanche de l'Avent, pour en faire notre propre miel et nous nourrir spirituellement.